Vous écoutez
RMC.
Il est 8h. Excellent réveil. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le ciel est bleu, mais les Français ont le blues. 4 sur 10 sont plus angoissés que d'habitude avec le contexte politique et les législatives dans 4 jours.
Et justement, la politique, on en parle à 8h30 avec mon invitée Marine Tondelier. C'est la secrétaire nationale des Écolos. Elle dit que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, lui, dit « j'ai l'intention de gouverner ce pays ». Qui dit vrai ? Réponse à 8h30.
Le ciel bleu qui coïncide avec le début des soldes ce matin. Les commerçants espèrent qu'on en profitera pour faire nos achats de l'été. Et les bleus du foot au repos, un jour et demi. Ils connaîtront ce soir leur adversaire en 8e à l'Euro, au lendemain de leur triste match nul un partout contre la Pologne.
On ne peut pas dire qu'on ait l'esprit léger en cette fin de mois de juin.
Non, la preuve, c'est qu'une étude de la Fondation Jean Jaurès nous dit que 4 Français sur 10 se sentent plus angoissés depuis la dissolution de l'Assemblée dans la foulée des européennes. Et c'est pas le retour du soleil qui va régler ça, Mao Bécard-Gagné.
Aller au parc sous un grand soleil ne suffit pas toujours à remettre de l'ordre dans les idées.
On est complètement paumé même.
Nathalie, retraitée, se dit marquée, fatiguée par le climat politique.
Dans l'incertitude et quelquefois un petit peu anxieuse. On ne sait pas du tout ce qu'on va devenir, comment on va pouvoir s'en sortir.
Les résultats des prochaines élections inquiètent Nancy, surtout quand elle pense à ses deux enfants.
On a peur de l'avenir, ça devient franchement grave. À mon avis, ils vont morfler, plus que nous.
Justement, François a lui 22 ans. Ce qui le tourmente principalement, c'est l'après les résultats du 7 juillet.
Qu'importe le résultat, en fait, ça va créer de l'incertitude en plus, du chaos. Est-ce que si le Rassemblement National remporte les élections, est-ce qu'il va pas avoir des grèves, des manifestations partout dans le pays ?
Un climat alimenté par le discours des responsables politiques pour Tonia.
Le président parlait de guerre civile. Là, tous les politiques jouent sur la peur.
Dans les cabinets médicaux aussi, les langues se délient et ce malaise politique n'est pas sans conséquence, explique Pascal Charbonnel, médecin généraliste.
C'est compliqué d'aller au boulot parce qu'ils sont préoccupés, qu'ils sont inquiets pour leurs enfants, et que donc ils dorment moins bien et qu'on a plus d'arrêts de travail, les gens vont pas bien.
Un Français sur deux se dit moins serein depuis l'annonce de la dissolution.
C'est toujours le psychodrame à droite. Ce matin, le député Aurélien Pradier annonce dans le journal La Dépêche du Midi qu'il quitte Les Républicains, un parti mort, dit-il, un parti qui n'est plus capable de parler aux Français. Il y avait hier soir le premier débat entre les trois camps favoris des sondages. C'était sur TF1. Gabriel Attal, le Premier ministre, a reproché à Jordan Bardella du Rassemblement National, Emmanuel Bompard du Nouveau Front Populaire de promettre la lune, c'est le mot qu'il a employé, de promettre la lune aux Français avec leurs promesses. Et avant même le premier tour se pose la question des consignes de vote et des éventuels barrages dans les circonscriptions. Cyprien Pezril du service politique à RMC. Le camp présidentiel s'est réuni d'ailleurs pour en parler hier et une ligne semble se dégager, c'est celle du ni, ni RN, ni LFI.
Oui, même si pour l'heure, pas de prise de position officielle et il ne faut s'attendre à rien avant les résultats du premier tour. Objectif, ne pas donner l'impression de partir perdant. En parler dès maintenant, ça nous affaiblit, justifie un participant à cette réunion. Mais d'après ceux qui ont assisté, un consensus s'est dégagé. Les macronistes n'appelleront donc ni à voter pour le RN, ni pour LFI non plus, même en cas de duel avec le parti de Jordan Bardella, avec donc l'idée de renvoyer dos à dos, ce qui est décrit comme deux extrêmes, et de détacher les insoumis du reste de la gauche. En réalité, c'est ce que font déjà Emmanuel Macron ou Gabriel Attal dans leur prise de parole ces derniers jours. Une stratégie qui, si elle est effectivement actée, s'éloignerait de ce que réclament publiquement quelques membres du camp présidentiel, un front républicain face au Rassemblement National. Mais si cette question permet à chaque candidat de se positionner, certains l'assurent, les consignes sont éloignées des réalités du terrain. De toute façon, elles ne sont pas suivies, assure même un député sortant.
Des slogans anti-RN, des symboles nazis, un petit collège de Charente à Baignes-Sainte-Radegonde a été complètement saccagé en pleine nuit. C'était en début de semaine. Pierre Bourgès, vous êtes le correspondant de RMC dans le Sud-Ouest, vous êtes rendu sur place. On ignore qui a fait ça et pourquoi, mais les dégâts sont conséquents.
Voilà le décor planté par le maire de Baignes. D'abord, le réfectoire, des centaines d'œufs jetés au sol, toutes les assiettes brisées, certaines fenêtres aussi. Et dans les salles de classe, des tuyaux arrachés provoquant de multiples inondations, avec sur les murs des croix gammées, des slogans anti-RN ou des symboles anarchistes.
Ça m'inquiète, bien sûr. Évidemment que ça m'inquiète.
Joël, lui, habite près de Baignes, il attend devant le collège.
J'ai deux filles qui sont là, au collège. Dans le temps, moi, quand j'allais au collège, il y avait un gardien. Maintenant, il n'y a plus personne. Est-ce que c'est intelligent de s'attaquer au bâtiment public ? C'est nous qu'on paye. Alors, c'est pas malin, hein ?
Il y a de la colère chez Joël, une colère partagée par les habitants du secteur.
Bah, c'est honteux, c'est lamentable, quoi.
C'est malheureux d'en arriver là, surtout dans une petite commune où il fait bon vivre.
Étant donné que j'y suis allée à ce collège, ça m'a fait beaucoup de peine. C'est juste horrible, quoi, en fait, de voir ça.
La mairie a dû annuler tous les événements événements des prochains jours dans sa salle polyvalente pour qu'elle serve temporairement de self. De son côté, le département assure que les troisièmes pourront quand même passer leurs épreuves du brevet dans une partie du collège non sinistré.
C'est ce matin le début des soldes d'été. 2 Français sur 3 prévoient de faire des achats dans les 4 semaines là qui arrivent. Ça coïncide avec le retour des beaux jours, l'occasion de s'équiper pour l'été. Martin Cadoré à Rennes pour RMC.
Phénomène étrange ici, l'apparition d'une boule de feu dans le ciel. C'est le soleil de retour en Bretagne. Caroline a donc prévu de rhabiller ses enfants pour l'été.
Objectif, claquettes, shorts, t-shirt, maillot de bain. J'ai 3 enfants qui grandissent chaque année. Je sais jamais quelle taille ils font exactement. Donc essayer pour moi est hyper impératif. Et puis j'ai envie de faire vivre le petit commerce et pas le e-commerce. Ça reste aussi un rendez-vous familial où on passe du bon temps.
En famille ou entre copines comme Lila et Zoé, prévoyantes.
On sort des boutiques pour faire 2-3 repérages.
Des petits hauts pour l'été. C'est vrai que les premiers jours, il y a peut-être plus d'opportunités d'avoir des prix réduits. En tant qu'étudiante, voilà, on fait un peu attention. On profite des soldes pour se faire plaisir.
Une journée essentielle aussi pour les commerçants. Fabienne Como, responsable d'une boutique de vêtements.
Il est très important pour notre situation financière. La saison a été compliquée. On a eu beaucoup de pluie. Par exemple, les shorts, on en a quasiment pas vendu pour l'instant.
Heureusement, l'engouement se fait déjà sentir, explique Karine François, une autre commerçante.
Les gens nous demandent à quelle heure on ouvre. Voilà quoi, on ouvre à 9h. On attaque dur, on va dire. On commence à moins 30%. Moins 40, moins 50.
Le coup d'envoi des soldes qui coïncide avec la grande braderie de Rennes. 300 000 personnes sont attendues dans les rues de la ville.
Le retour du soleil nous fait enfin penser aux vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Et cette année encore, une étude de l'IFOP nous le confirme. Romain Houg, parmi tous ceux qui partiront en vacances, 76% le feront en voiture.
Oui, et la première raison à cela pour les 3/4 des personnes interrogées, c'est très largement la mobilité. Pouvoir se déplacer sur le lieu de vacances. Ensuite, ça permet de transporter plus facilement ses valises. Et puis enfin, 38% d'entre eux estiment que la voiture est plus économique que l'avion ou le train. En moyenne, le budget voiture pour les vacances est autour de 300 €. Et par ces temps d'inflation, c'est un peu la chasse aux économies, nous dit cette étude. Les Français comptent d'abord éviter le fameux sandwich triangle sur les aires d'autoroute, trop cher. On privilégie plutôt le pique-nique à l'ancienne. Et puis beaucoup emprunteront plutôt les routes nationales pour éviter les péages. Et alors vous me direz, où est l'écologie dans tout ça? Eh bien, assez loin dans les préoccupations des Français. Selon un autre sondage, vous êtes 14% seulement à choisir votre moyen de transport pour des raisons écologiques.
Pas de vacances, mais du repos pour l'équipe de France de foot. 1 jour et demi de pause à l'Euro. La phase de poule s'est terminée par un triste match nul, 1-1 contre la Pologne hier soir pour les Bleus, qui finissent 2e du groupe. Ils rejoueront lundi en 8e de finale. On connaîtra l'adversaire dans la soirée. Jean Rességuier, vous êtes au plus près des Bleus pendant tout cet Euro pour RMC. On a encore été déçus hier soir par l'équipe de France, d'après vous. Est-ce qu'elle peut changer de visage là pour la fin de la compétition?
Oui, tout est encore possible, mais ce sera après la pause familiale, ce moment important. Et Didier Deschamps le sait, cela permet surtout de changer d'idée, de faire retomber la pression. Et il a demandé aux joueurs, pour ce quartier libre jusqu'à jeudi midi, de ne pas s'éloigner de la ville, de leur camp de base, Bad Lippspringe, un repos de la récupération avant de préparer ce 8e de finale. Tourner la page d'un premier tour laborieux qui n'incite pas l'optimisme des supporters français, c'est vrai. Mais comme l'a évoqué hier soir Eduardo Camavinga, une grande équipe, pardon, se relève toujours. Au moins, le jeune milieu de terrain du Real Madrid reconnaît dans cette phrase que tout n'est pas parfait, mais que ces matchs à élimination directe pourraient réveiller l'esprit de compétition des Bleus. Ils l'ont prouvé par le passé, et Deschamps, le premier, trouvant l'inspiration dans ses choix de joueurs, mais aussi tactique, garder de la fraîcheur, pourquoi pas, avec Barcola, soulager Kanté, qui ne peut pas tout faire, relancer le buteur Giroud, et compter une fois de plus sur le talent de Mbappé pour réveiller une équipe qui suscite toujours la crainte chez ses adversaires. C'est le plus important.
Et c'est ce soir donc qu'on connaîtra l'adversaire des Bleus en 8e de finale. 4 adversaires potentiels, ce sera en fonction des résultats des 2 matchs Ukraine-Belgique et Slovaquie-Roumanie, 2 matchs qui commenceront à 18h, évidemment à suivre sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinelli, 8h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant, le coup de gueule d'Éric Dimeco après le match franchement moyen des Bleus hier soir face à la Pologne. L'équipe de France est qualifiée certes, mais 2e de son groupe. Et la suite du parcours sera sans doute plus compliquée que prévu. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h12, excellent réveil à tous.
Le parti pris.
Vous n'aviez pas eu à veiller trop tard hier, puisque le match était à 18h, effectivement, pour une fois. Mais ça n'a pas franchement donné le moral. On est qualifié, mais on est 2e. Bonjour Éric Dimeco.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Éric Dimeco en direct avec nous ce matin. Éric, bon, franchement, c'était pas lourd quand même, hein, ce 1-1, un bilan vraiment tiède, quoi.
Moyen,
j'ose
oui,
pas
oui.
dire autrement.
Non, mais
c'est décevant.
Après avoir fait le constat de, comme l'a fait Didier Deschamps après le match, on est qualifié. C'est une nouvelle compétition qui arrive maintenant avec les matchs à élimination directe que généralement la France maîtrise bien. Il y a quand même de quoi être inquiet parce que même si sur les dernières compétitions comme ça, l'équipe de France nous a jamais fait nous lever du canapé. Après ces matchs de poule, généralement, il y avait un truc qui se passait, c'est-à-dire Didier trouvait la formule. En 2018, c'est le fameux poste de Matuidi côté gauche, un petit peu plus haut. Sur la dernière Coupe du Monde, c'était Griezmann dans le milieu de terrain, un petit peu plus bas. Et on savait dans quelle direction on allait. Là, en sortant de ces trois matchs, je suis pas capable de vous dire si il va continuer avec ce milieu de terrain à 3 parce qu'il a l'air de pas vouloir choisir entre Tchouaméni et Kanté. Savoir si Mbappé va enfin revenir dans son couloir gauche qui est son meilleur poste pour moi plutôt que cette position d'avant-centre hybride là qui voilà. Savoir si côté droit c'est Dembélé qui a fait une bonne mi-temps sur 6 qui doit occuper ce poste là. Voilà, on est un peu dans le flou et c'est ça qui m'inquiète le plus finalement.
Eric, ce flou. Donc on a du mal à se projeter, mais si on revient juste sur hier, est-ce que Mbappé vous a convaincu?
Alors Mbappé, déjà pour moi, il fallait prendre le risque de le faire jouer contre les Pays-Bas. Ce match-là était trop important parce que finir premier de ce groupe permettait de d'être dans la partie la plus facile.
Donc ça valait la peine de le faire jouer contre les Polonais.
Alors contre les Polonais, oui. Ah non. Moi je l'aurais même fait jouer avant parce que pour moi le match contre les Pays-Bas était le match bascule. Voilà, hier soir, malgré son masque qui est un petit peu gênant, c'est quand même l'attaquant le plus dangereux chaque fois. Et même dans cette position-là où il a moins de profondeur, puisque avec quand on est avant-centre,
racontiez la semaine dernière, Eric, que vous-même, quand vous aviez joué avec un masque, c'était.
C'est gênant. Il a dû être gêné, mais je trouve que ça s'est pas vu tant que ça. Par contre, moi, je trouve qu'il est toujours gêné, mais ça fait un an qu'on fait le débat, puisqu'au PSG, il y a eu ce même débat. Charles pourra en parler mieux que moi.
Je vois Charles qui, à ce moment-là, lève les yeux au ciel.
On voit un peu le Mbappé du PSG en ce moment.
Oui, mais moi, je suis désolé. Mbappé n'est jamais aussi fort que quand il joue dans le couloir gauche, et on doit se faire avec ça. Voilà.
Les Polonais très agressifs quand même hier, franchement, très agressifs. Il y a eu ce moment aussi avec Lewandowski qui, semble-t-il, a quand même mis un coup sur le nez de Mbappé. On a cru lire sur les lèvres, j'ose à peine le dire, ce fils de...
Il n'était pas content.
Bon, et honnêtement, on peut imaginer qu'il souffre et qu'il le prenne mal. Donc on peut le comprendre, mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté, il se cherchait.
Oui, non, mais après ça c'est normal, c'est les matchs de haut niveau. Quand on est un des meilleurs joueurs du monde et qu'on a une faiblesse, eh ben l'adversaire appuie dessus. C'est un épiphénomène dans le match d'hier soir. C'est le gros problème qu'on a toujours, c'est que on offensivement on sent que les joueurs sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire on joue sur un exploit d'Mbappé ou de Griezmann qui n'était pas là hier soir, et on a vu qu'on peut pas se passer de Griezmann quoi qu'il arrive.
Ça veut dire, Eric, que c'est pas travaillé à l'entraînement là, les phases offensives. Didier Deschamps, on voit bien que c'est travaillé, le bloc derrière c'est solide.
Oui
et
non
devant,
mais c'est vrai que
débrouillez-vous au niveau du talent.
Alors non, je vais pas aller jusque là parce que on pourrait colporter de ce genre de propos qui fait c'est pas la réalité, sauf que Didier compte beaucoup sur le talent de ses attaquants. Voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas de lien ou de phase de jeu offensive qui semble presque travailler régulièrement avec des situations qui se reproduisent de match en match, et on se dit tiens, ça c'est l'identité du jeu français.
C'est ce flou dont vous parlez. Eric, il faut se projeter un peu, donc lundi 8e de finale, ce sera d'ailleurs à 18h aussi, et il faut attendre ce soir pour qu'on sache qui seront nos adversaires, soit la Roumanie, soit la Belgique, soit la Slovaquie, soit l'Ukraine. Qui sont les adversaires les plus faciles ou les plus difficiles?
Alors après, si, vu qu'on est déjà du mauvais côté du tableau, si on peut éviter la Belgique en huitième, parce qu'on va se prendre derrière soit l'Espagne, soit l'Allemagne, le Portugal, et puis après soit l'Espagne, soit l'Allemagne, c'est-à-dire si on peut éviter de se faire Belgique, Portugal, Allemagne, et un gros de l'autre côté pour la finale, ce serait bien quand même, quoi. Voilà, on peut tout gagner, mais si on peut se faciliter un peu la tâche, donc
il vaut mieux Roumanie, Slovaquie ou Ukraine que Belgique.
Oui, je pense que les Belges vont gagner, vont finir premier du groupe.
Et la réponse donc en direct ce soir à 18h pour savoir contre qui nous jouerons lundi. Merci Eric Dimeco, donc en direct avec nous ce matin. Et c'est l'alerte. On parlait du match de lundi. Eh bien, vous savez quoi? On vous l'offre. RMC vous envoie en Allemagne pour assister aux huitièmes de finale de l'équipe de France de l'Euro 2024. On vous propose de vivre l'expérience RMC, le voyage à Düsseldorf. Deux places pour les huitièmes de finale lundi prochain. L'hôtel, l'avion. Vous avez donc 5 minutes pour vous inscrire et tenter de gagner la grande expérience foot RMC. Vous envoyez foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16. Bonne chance à tous.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Ah oui, exactement. Oh. Tous les jours et plus que 4 jours. Plus que 4 jours avant le premier tour des législatives. C'est long. 4 jours, c'est à la fois très court et très long. Hein. Ouais, plus les jours passent et en plus, plus les arguments électoraux deviennent zinzin. Moi, je m'en remets pas de Macron et de la guerre civile.
Française, Français, votez pour moi, sinon ce sera la guerre civile et on mourra tous dans d'affreuses souffrances.
On dirait les arguments d'un mec désespéré, quoi. Chérie, c'est bientôt la guerre civile, l'humanité va s'éteindre. Peut-être qu'on devrait profiter de la vie, essayer un plan à trois avec ta sœur avant d'en finir. Qu'est-ce que t'en penses? Macron, c'est Jean-Claude Duss.
Je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens.
Mais c'est tellement ça. Et je vous parle même pas de la qualité des débats.
Non, mais
quoi.
Jean-Claude, le gars.
On a envie de le prendre dans ses bras et de faire. Et les débats, c'est vous êtes fasciste et antisémite. Non, c'est celui qui le dit qui est. C'est vous. Pouce, miroir, tout ce que tu dis revient sur toi. Ça nous renvoie en enfance. Hein.
Ça devient
vénère. Hier, j'étais au marché à côté de chez moi, il y avait des gens qui tractaient et ils se sont fait hurler dessus par un type en fauteuil roulant qui leur a dit « Je préfère me faire couper les deux jambes que de voter pour vous ». Tu me diras, le gars en fauteuil, il s'en fout, il s'en sert pas de ses jambes. Donc c'est un peu comme si Morano disait « Ouais, si c'est ça, je vais me faire lobotomiser ». A priori, ça manque pas. Mais c'est vous dire le niveau de vénéritude, quoi.
La dissolution, Arnaud, n'en finit plus d'intriguer les proches d'Emmanuel Macron.
Oui, personne ne comprend pourquoi le président a fait un truc aussi absurde que cette dissolution. C'est tellement le bordel. Moi, je pense qu'il a dû demander conseil à Jean Castex. Il est allé le voir une nuit d'orage pour savoir comment reconquérir la France. Alors attention, là, on s'approche d'une vanne générationnelle.
D'accord.
Je pense que vous serez 3 sur 4 à la voir. Donc, la rencontre Macron-Castex. C'est Manu, c'est Castex. C'est Manu, c'est Castex. Manu, le génie. Ah voilà, il y en a
Minus
une.
Minus et Gore-Tex.
Voilà. Dis-moi, Manu, qu'est-ce qu'on va faire cette nuit?
La même chose que chaque nuit, Castex. Tenter de conquérir le monde.
Ah, alors j'ai une méthode pour reconquérir les Français. Où sont mes lunettes? Alors, après une branlée aux européennes, comprends, parce qu'on a démoli notre propre candidate, il faut dissoudre l'Assemblée et remettre en campagne nos députés dont les gens ne veulent déjà plus, sauf s'ils se désistent pour une personnalité qui peut faire barrage au RN qu'on a fait monter nous-mêmes, à l'exception des candidats du Front Populaire dont le profil figure sur l'application Tous Anti-Extrêmes, disponible à partir du 8 juillet. Candidats auxquels les électeurs de gauche seront appelés à faire barrage, sauf si le dit candidat accepte de faire alliance avec nous alors qu'on est derrière eux, pour appliquer un programme que les Français viennent de rejeter. Les électeurs de droite modérés seront appelés à voter pour un candidat LR dont le parti soutient le RN qui est raciste et antisémite, afin de constituer un bloc central dont seront exclus les socialistes capricornes qui soutiennent la LFI qui est antisémite, comme le RN, mais différemment. Et le tour est joué. Ah ben c'est formidable, Castex. On va bien reconquérir le monde avec tout ça.
Le Kremlin, Arnaud, a annoncé bannir plusieurs médias français de Russie, dont l'agence France Presse, Le Monde, Libération ou Radio France.
Ouais. Et pas nous. RMC résonne encore sur le territoire russe. Mais non, on est passé sous les radars de la censure. Nous sommes la dernière voix de la liberté. Résistants russes, vous qui m'écoutez clandestinement, poutinement à votre peuple, Poutine yets vachemu narodu, la propagande vous manipule, propaganda va mi manipulir yet. Et surtout, ou Poutina ononchen malienki, ça veut dire Poutine en a une toute petite, volyotitche au charmanien, ça veut dire que c'est pas le cas de tout le monde. Alors,
on peut revoir la version russe.
Charmanien pourra s'en servir. Alors, parmi les médias censurés par la Russie, Il y a CNews. Ils doivent être dégoûtés à mort. 4 ans à faire de la lèche à Poutine, à recevoir tous les soutiens du Kremlin de France. Et c'est pas encore assez. Pascal Praud et Christine Kelly, ils doivent être indignés. C'est bien la première fois qu'on leur dit qu'ils sont pas assez serviles. Là, on insulte leur conscience professionnelle. C'est très mal.
Arnaud, dans toutes les circonscriptions, on apprend à connaître les candidats.
Oui, on les découvre sur nos panneaux. Alors, c'est l'occasion de la deuxième manche de notre grand jeu des législatives. Non. Vrai ou faux candidat? Alors je rappelle le principe, je donne 2 candidats et vous me dites lequel est le vrai. À gagner une soirée plateau télé, soirée électorale BFM TV avec Alain Duhamel.
Oh, alors, ça c'est sympa, c'est, ça, c'est je vais déjà le vivre voilà, dimanche soir, moi j'ai pas besoin de jouer.
Alors qui est le vrai entre, top c'est parti, entre Julien Lautiste et Agnès Reinemann.
Reinemann,
c'est vrai. Entre Jean Lefebvre ou Marthe Mercadier.
Ah, Jean Lefebvre.
Jean Lefebvre. Qui est le vrai entre Kimberley Yonf ou Samantha Huck?
Samantha Huck,
c'est Manu. Yonf, non.
Samantha Huck.
C'est dommage. Qui est le vrai entre Denis Crétin et Julien Lahuri?
Crétin, c'est vrai.
Un partout, là, du coup. Ça. Qui est le vrai entre Charles Mario et Guillaume Luigi?
Mario.
Qui est le vrai entre Emmanueli Gougougnian Zadig ou Gabriello Cucufin Zorbignac?
Gougougnian
Zadig.
C'est dommage qu'ils s'y pensent, c'était bien.
Emmanueli Gougougnian Zadig.
Est-ce qu'il y a des pièges où vous nous dites en fait les deux sont bons?
Ah, ça, j'y ai pensé, mais pour la troisième manche. Qui est le vrai entre Laurent Chrétien Marqué ou Mohamed Musulman Assumé?
Chrétien Marqué.
Qui est le vrai entre Axel Latrasse ou Fabrice Depneux?
Latrasse.
Bon, allez, on va s'arrêter là-dessus. T'as gagné. Bonne soirée avec Alain Duhamel.
Viens dimanche. Allez,
demain.
On va la passer ensemble cette soirée de dimanche soir, la soirée des électorales, avec évidemment Alain Duhamel. Il est 8h25. Dans un instant, la politique, justement. Mon invité, c'est Marine Tondelier, c'est la patronne des écolos. Elle fait partie de ceux qui ont donc constitué ce nouveau front de gauche, ce nouveau front populaire. Elle dit que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit qu'il veut gouverner la France, qu'il y va. Réponse dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Tondelier.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'une des artisanes, et on l'a vu, vraiment la plus active, même dans les premières heures où ce nouveau front populaire a pris naissance. Vous en êtes l'un des piliers avec le groupe écolo, avec votre parti, les écolos dont vous êtes la secrétaire nationale. On a un petit peu du mal quand même à comprendre si ça n'est pas une association de façade. On va essayer de comprendre quand même ce qu'il y a derrière. On va
avec
revenir
plaisir
sur ce fameux aussi barrage républicain auquel vous appelez, et puis plus concrètement aussi sur vos propositions écolo. Ce barrage républicain, vous y croyez encore, vous?
Je vois qu'il est battu en brèche. Je vois que certains politiques qui se disent républicains, humanistes, démocrates ont perdu leur boussole. Je trouve ça effrayant d'ailleurs, parce que c'est pas à la hauteur de l'histoire, et je pense que l'histoire s'en rappellera, et vous l'avez compris, pas dans le bon sens. Je suis assez effarée de tout ça, parce qu'on parle quand même de personnes qui remettent en cause ce barrage républicain au centre, à droite, qui sont au pouvoir parce que les électeurs de gauche et les électeurs écologistes n'ont jamais transigé, n'ont jamais hésité, ils l'ont fait de manière quasiment instinctive, pas avec le sourire, pas par plaisir, mais parce que nous avons des principes et que nous faisons la différence entre les candidates et les candidats d'extrême droite et les candidates et les candidats de droite.
Oui, mais c'est marrant parce que je vous parle de barrage républicain et vous me répondez chef de parti.
Oui.
Mais en fait, les Français vous écoutent plus.
Mais c'est exactement ce que j'allais vous dire, parce que moi, je vais vous le dire dans l'autre sens. J'ai un sondage entre les mains qu'on a commandé, qu'on a reçu hier soir, qui montre que les électeurs macronistes, que les électeurs...
Le groupe écolo, enfin les écolos.
Les écologistes et le Front Populaire, d'accord, qui nous montrent que les électeurs démocrates, républicains, humanistes qui votent pour Emmanuel Macron, par exemple, ne sont pas en phase avec ce que Macron dit sur le désistement républicain. Eux, ce sont des démocrates, des humanistes, des républicains qui trouvent que l'extrême droite, c'est pas comme le reste. Et donc, je pense que si ces partis s'entêtent, si ces chefs de partis s'entêtent, je pense que leurs électeurs vont finir par faire barrage.
Alors, on va repréciser les choses pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Le barrage républicain, jusqu'à présent, c'était de dire tout sauf le RN.
Exactement.
Avec même des appels au désistement. On va y revenir puisque vous avez été très clair là-dessus. Et puis, certains qui, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, c'était l'UMP, disaient le ni-ni, c'est-à-dire effectivement ne pas appeler finalement à voter pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même, en 2017, avait dit qu'ils ne demandaient pas, qu'ils ne donneraient pas de consigne de vote.
Mais ces électeurs l'ont fait.
Et ouais, donc moi, ce que je vous dis, c'est que je vais... moment à Marseille où il n'avait pas choisi.
Non, mais moi, je vais écrire en fait au chef de parti. Non, mais j'ai dit les choses très clairement au sein du Front populaire. Et d'ailleurs, quand, en tant que chef de parti écologiste, je pose les choses hier de manière claire, nette et précise, en disant qu'il n'y aura pas d'hésitation chez nous, pas de tergiversation. Un deuxième tour avec trois candidats, si nous sommes en troisième position et que nous risquons de faire élire quelqu'un d'extrême droite, nous nous désisterons. J'ai le mérite de poser les choses très clairement et les écologistes le font. Je pense que ça aura un effet d'entraînement.
Vous appellerez vos électeurs à voter pour Emmanuel Macron si
pour les candidats républicains contre l'extrême droite.
Et vous pensez qu'ils vous suivront ?
Oui, parce que d'ailleurs les sondages le montrent, nos électeurs de gauche et écologistes, encore une fois, ne sont pas le problème dans ce genre de situation. Mais donc je pense que la position très claire que j'ai posée en tant que chef de parti d'Écolo et au nom de tous les écologistes aura un effet d'entraînement au sein du nouveau Front populaire, mais chaque parti le fera à son rythme. Mais je pense aussi que ça doit avoir un effet d'entraînement chez celles et ceux qui ont perdu leur boussole. Je vais écrire
le camp macroniste qui a donc annoncé hier qu'ils allaient vers un ni-ni, c'est-à-dire ni RN ni LFI.
Ce qui est extrêmement préoccupant et donc j'écrirai aujourd'hui au chef des différents partis de la majorité présidentielle, qui n'a plus de majorité que le nom, j'écrirai à Horizon, à Renaissance, au Modem, à l'UDI. Je demanderai même à les voir, parce que je veux qu'ils m'expliquent les yeux dans les yeux ce qu'ils n'ont pas compris. Je veux qu'ils m'expliquent les yeux dans les yeux pourquoi ils ne font pas la différence entre l'extrême droite et la gauche. Je veux qu'ils m'expliquent les yeux dans les yeux ce qu'ils sont en train de faire, parce que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que les sondages montrent que ce désistement républicain pourrait faire basculer des dizaines de circonscriptions à l'extrême droite ou pas, selon que la consigne est tenue ou pas par tous les partis de ce pays. Et donc, vous voyez évidemment que les électeurs, c'est eux qui décident à la fin, mais les consignes que vont donner les partis vont compter, parce que quand un président de la République, quand un premier ministre tergiverse sur ce genre de sujet, ça donne un flottement. Ils sont prescripteurs quand même. Et je trouve que ce qu'ils font est vraiment extrêmement grave. Moi, j'en suis atterrée. Je pense qu'ils ont perdu leur boussole et que c'est délétère. Et donc, je leur écrirai, je demande à les rencontrer. Et si
d'ici vendredi.
Et s'ils ne le font pas, j'appelle sincèrement leurs électeurs à faire barrage contre eux. Parce que je pense qu'à un moment, leurs électeurs sont plus démocrates, plus républicains et plus humanistes qu'eux.
Barrage, y compris contre eux, dès le premier tour, dans ce cas-là.
Ben, je pense que leurs électeurs, ils ont des principes. Et que, vous savez, on a un parti qui a parlé beaucoup d'arc républicain. Alors, c'était à leur guise, ils excluaient, ils mettaient dedans. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre, l'arc républicain, que l'arc des gens qui savent encore ce qu'est un fonds républicain, qui savent encore ce qu'est un désistement républicain? Leurs électeurs qui votent pour l'arc républicain peuvent aussi considérer qu'à un moment, celles et ceux qui font pas la différence entre l'extrême droite et les autres ne sont plus dans l'arc républicain.
Marine Tondelier, est-ce que vous allez jusqu'à vous dire qu'au fond, vous seriez prête à ce qu'il n'y ait plus ou très peu de députés écolos? Parce que vous seriez désisté au deuxième tour.
Mais c'est pas du tout ce qui va se produire. Nous sommes à plus de 10 points devant la Macronie dans les sondages. C'est-à-dire que quand on parle de majorité présidentielle, c'est en sursis. On sait très bien qu'il n'y a aucun scénario où le 8 juillet prochain, il y a encore un premier ministre macroniste.
Donc c'est bien les macronistes, au sens large, comme vous disiez, Horizon, voilà, Renaissance, etc.
Le camp présidentiel.
Que vous appelez à dire clairement comme vous qu'ils se désisteront si l'URN peut être élu.
Au deuxième tour, il y aura beaucoup de triangulaires parce qu'il y a une participation qui va être importante. Donc ça va favoriser les triangulaires. Dans la plupart des cas, nous serons devant les candidats macronistes. Mais dans les cas où nous serons derrière, nous serons extrêmement clairs comme nous l'avons toujours été. Par contre, la question va se poser à eux beaucoup plus souvent qu'à nous. C'est pour ça que je leur pose très publiquement. Et comme je suis d'un naturel un peu déterminé dans la vie, je leur poserai aussi souvent que nécessaire jusque vendredi soir.
Et y compris les yeux dans les yeux, puisque vous demandez à les rencontrer un par un. Marine Tondelier.
Ils ont le courage de me répondre.
Marine Tondelier, je voudrais juste savoir ce que c'est ce sondage, parce que moi j'ai un sondage complètement inverse. Donc,
c'est un sondage de Cluster 17.
D'accord, Cluster 17. Alors, il fonctionne pas exactement comme les sondeurs. Hein,
Mais ils appréhendent souvent beaucoup mieux certaines choses que d'autres.
Parce que le sondage Odoxa que j'ai sous les yeux sur la question du barrage républicain montre exactement l'inverse, c'est-à-dire que désormais le barrage républicain d'abord fonctionne de moins en moins, mais quand il fonctionne, il fonctionne contre vous.
Non, mais
désormais,
en fait,
lorsqu'on demande, je vais quand même juste aller au bout de la description de ce sondage, je l'ai sous les yeux, c'est donc le dernier sondage Odoxa qui montre que lorsqu'on interroge les Français, ils sont 47% à dire que s'ils font barrage, ce sera face au nouveau Front populaire. C'est
c'est deux choses différentes.
Qui vient en numéro 1 pour faire barrage, en numéro 2, c'est faire barrage contre Macron, et ça n'est qu'en numéro 3 l'idée de faire barrage contre le RN. C'est-à-dire que le RN, désormais,
les terres du président marchent.
Désormais, le RN n'est plus un repoussoir. C'est la conclusion de ce sondage.
Bah, écoutez, on a le président de la République et le Premier ministre, Aurore Berger et d'autres, qui nous expliquent, y compris même Jean-Yves Le Drian, qui a quand même été ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il considère que c'est mieux d'avoir un ministre des Affaires étrangères d'extrême droite que de gauche. Ils vont être contents en Ukraine quand ils vont entendre ça. Donc oui, je pense que ça a un impact sur les électeurs, mais ce que nous sondons, c'est pas les reports de voix de deuxième tour. Ce que nous avons sondé, c'est êtes-vous favorable à des désistements républicains en France ? Et les électeurs centristes, macronistes, très largement, ils sont favorables.
Sur la question des appels au vote, des consignes de vote, est-ce que vous avez lu les propos d'Ariane Mnouchkine ?
Non.
Ariane Mnouchkine, c'est cette figure du monde de la culture, du monde du théâtre. Elle a longtemps été aux premières loges de toutes les manifestations, de toutes les contestations. Elle avait d'ailleurs dans toutes les manifestations des très grandes marionnettes qu'on voyait de loin dans tous les cortèges. Et dans Libération, cette semaine, elle dit « Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce que nous aurions dû faire ?» Alors certes, la première responsabilité revient à Emmanuel Macron, dit-elle. Mais elle dit « Je nous pense en partie responsable, nous ». Gens de gauche, nous gens de culture, on a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, on n'a pas voulu écouter les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis, quand ils insistaient, on leur disait qu'ils étaient des imbéciles. Puis, quand ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. Une partie de nos concitoyens en a juste marre de nous, marre de notre impuissance, de nos peurs, de notre narcissisme, de notre sectarisme et de nos dénis. Quand elle dit nous, elle dit peuple de gauche.
Je la comprends et je partage ce qu'elle dit, en sachant que moi je suis née, j'ai grandi, j'habite et je milite à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, une terre qui a vu grandir le Front National, qui l'a vu s'implanter et qui est dirigée maintenant par l'extrême droite. Et je sais bien que le fait que mon maire de l'époque, le maire de quand j'étais au lycée, il ait fini en prison avec 18 chefs d'inculpation, le fait que les mines aient fermé, qu'on ait promis une relance industrielle qui n'est pas venue, qu'on ait promis des mesures sociales qui ne sont pas venues, qu'on meure 5 ans plus jeune que partout ailleurs en France, c'est-à-dire que quand vous naissez sur ce territoire, le jour de votre naissance, vous avez déjà 5 ans d'espérance de vie de moins que si vous étiez né à Paris alors que vous n'avez encore rien fait. Tout ça, c'est injuste, tout ça, ça a des conséquences, tout ça, ça se paye politiquement et électoralement. Moi, je le comprends tout à fait, je ne fais pas partie des gens qui disent « il vote pour le RN, donc c'est un gros facho, donc je ne lui parle plus jamais de ma vie ». C'est pas comme ça que je fais. Donc je suis d'accord avec elle, je suis d'accord avec le mépris que peuvent ressentir aussi parfois une partie de la France quand on leur explique la vie vue depuis des situations sociales, géographiques, territoriales bien différentes des leurs. Quand on leur explique qu'ils n'ont pas besoin de voiture alors que s'ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas aller travailler. Quand on leur explique qu'ils devraient faire leurs courses dans je ne sais pas quel magasin qui n'existe pas chez eux. Enfin tout ça, moi je le sais. Et je partage aussi le fait que parfois je suis lassée des politiques et de la politique. Vous savez, moi je suis la seule femme chef de parti, je participe des fois à des réunions quand Emmanuel Macron nous convoquait là à Saint-Denis où ça parlait pendant des heures et des heures de rétablir le cumul des mandats et de plus d'agents pour les partis, on aurait dit une réunion un syndicat de copropriétaires quoi. Moi aussi des fois ça m'énerve. Et si je m'engage, c'est justement pour combattre tout ça. Donc qui ne se désespère pas, il y a des gens qui les défendent sincèrement, il y a des gens qui font ce métier pour de bonnes raisons et on va continuer.
Et y compris en prenant un risque hein, puisque Marine Tondelier, vous avez choisi malgré tout d'être toujours candidate sur votre territoire là où
c'est
pourtant
ce territoire qui m'a fait engager en politique.
Et très haut. Marine Tondelier, il y a quand même cette question aussi, quand je disais que, selon les derniers sondages, ce n'est plus tant le RN qui fait peur que l'alliance avec LFI. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'en vous associant à LFI, qui aujourd'hui est considéré aussi comme un repoussoir par certains, vous avez pris un risque ?
Vous savez, c'est une bataille culturelle. Et on voit bien que quand toute l'extrême droite, toute la droite et tout le centre répètent à longueur de journée que le problème de la République, c'est la France insoumise, ça infuse, ça a des conséquences.
Donc c'est pas la faute de Jean-Luc Mélenchon.
Que cherchent les gens? Non, moi je pense qu'on a aussi une part de responsabilité. Mais que cherchent ces gens? Ils souhaitent qu'on ne s'associe pas ensemble. Emmanuel Macron, d'ailleurs, quand il provoque une dissolution surprise qu'il a décidé avec 3 copains, là, sans concerter personne comme d'habitude, vous me direz. Il dit, le lendemain, à Oradour-sur-Glane, donc c'est un lieu quand même, 643 personnes, femmes, hommes, enfants, ont été massacrées par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il se rend au 80e anniversaire et il dit, ah, je leur ai jeté une grenade dégoupillée dans les jambes. Ce qui, en plus, est une phrase terrible, hein, parce que, à Oradour-sur-Glane, les hommes, on leur avait tiré dans les jambes pour qu'ils soient blessés, mais qu'ils survivent et qu'on puisse les brûler vifs pour décupler leur souffrance.
Je précise que l'Élysée nie que cette phrase ait été prononcée. Le journal Le Monde maintient ses propos et affirme que ça a bien été
très sérieux
prononcé.
Et ça ressemble à Emmanuel Macron, ce cynisme, ce mépris, ces petites phrases à l'emporte-pièce. Et c'est extrêmement grave. N'importe quel candidat législatif de France aurait dit ça, on aurait demandé sa démission. Tous les partis confondus. Donc c'est extrêmement grave. Quand il dit « je leur ai jeté une grenade dégoupillée dans les jambes », c'est qu'il sous-estimait totalement notre détermination à faire ensemble et à gagner. Ils pensaient qu'à force d'avoir diabolisé la France insoumise, ce serait irréconciliable et qu'on n'oserait pas travailler avec eux. Et on l'a fait. Et ce qui le dégoûte, quand on le fait, c'est pas tant ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il pense et préjugé. C'est le fait que nous serons au deuxième tour quasiment partout devant ces candidats.
Alors, gagner, peut-être.
Pour gouverner.
Avec qui?
Mais c'est,
pardon, mais enfin, c'est quand pas même, Marine Tondelier, moi, j'aimerais bien gouverner. Comprendre, qui dit vrai. C'est-à-dire que vous, vous dites, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Et Jean-Luc Mélenchon, il dit, j'ai l'intention de gouverner ce pays. C'est un dialogue de soi.
Ah non, c'est pas vrai, parce qu'il a, le soir même de ma déclaration, annoncé qu'il n'était pas candidat au poste de Premier ministre.
Non, il dit, ni je ne m'impose, ni
ça,
je ne
c'était
me retire.
Avant. Il l'a dit plusieurs fois. Et suite à nos déclarations, il a dit qu'il n'était pas candidat au poste de Premier ministre. Je vais vous dire pourquoi.
Donc pour nous, c'est sûr, il sera, c'est vraiment...
Mais il l'a dit lui-même, donc je vais vous dire, normalement c'est tranché.
Il a redit, je suis candidat à rien, mais ça ne veut pas dire qu'il est candidat à rien. Ça
oui,
veut
mais
pas
les
dire
choses sont claires.
Vous le croyez?
On est une coalition, les insoumis, les communistes, les socialistes et les écologistes. Mmh. Donc on décide ensemble. Mmh. C'est
mais
la différence d'ailleurs avec la NUPES, c'est
mais
que nous décidons.
Olivier Faure ici même disait, il y aura un vote. Vous vous dites consensus?
Je vais expliquer. Nous déciderons au consensus parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début. Tous les obstacles qu'on a enjambés et que personne pensait qu'on arriverait à enjamber, on les a enjambés au consensus, en discutant, en trouvant les solutions. Et donc, sur le poste de Premier ministre en particulier, premièrement, ça sert à rien de s'énerver aujourd'hui. Celui qui peut, sur ce plateau, expliquer quelle sera la composition de l'Assemblée nationale soir du deuxième tour.
Il y a des réalités mathématiques. Non, il y a des réalités mathématiques. C'est-à-dire, dans votre groupe, il se trouve qu'il y a plus de candidats à
l'élection. Oui, mais la réalité mathématique, c'est qu'il faut avoir la majorité absolue et que si nous ne l'avons pas seul, il faudra trouver quand même une coalition à l'Assemblée nationale. Donc tout ça, on le saura au lendemain du deuxième tour. Mais par contre, sur la méthode, les quatre points que j'ai toujours fixés et qui paraissent, c'est pas mon avis, ça paraît assez intangible. La première chose, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit à l'aise, aligné avec le programme du Nouveau Front Populaire, parce qu'il faudra le porter avec sincérité. Ça, c'est un premier point.
Alors,
le deuxième
à ce point-là,
point,
je vous arrête tout de suite.
Ah bah,
Paul Vannier,
si
qui est député sortant,
points,
candidat aussi du Nouveau Front Populaire, donc dans votre coalition, qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon, sur ce point-là, hein, c'est-à-dire appliquer le programme, il dit le candidat le mieux placé, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il dit,
attendez,
nos concitoyens savent que l'objectif du Premier ministre du Nouveau Front Populaire ne sera pas de faire consensus,
non,
mais d'appliquer un programme de rupture. Ils savent qu'il faudra bien accepter de se fâcher avec les puissants. Ils savent qui y est prêt et qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, je parle de Jean-Luc Mélenchon.
Vous n'êtes pas le seul, heureusement. Mais vous savez pourquoi c'est important? Parce que dans d'autres gouvernements, quand on nommait un Premier ministre, on disait, tiens, on mettait le Premier ministre, donc c'est un virage à droite. Tiens, on mettait le Premier ministre, c'est un virage à gauche. Nous, quel que soit le Premier ministre, le programme sera le même. On s'y engage. Donc ça, c'est hyper important de le dire. Premier critère, donc être aligné avec ce programme et pouvoir le porter
sincèrement. Encore une fois, ce critère n'exclut pas Jean-Luc Mélenchon.
Deuxième critère, être susceptible d'apaiser le pays qui en a grand besoin. Troisième critère,
ça pour le coup, ça, pour vous, ça exclut Jean-Luc
Mélenchon.
Mais
vous voyez tout par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, moi, je vois ça par rapport au reste de la France.
Parce que vous l'avez vu par exemple hier soir.
Oui, mais
il y a un débat.
La vie politique française.
Il a tweeté toute la soirée. Il a dit ensuite que Manuel.
C'est bien, il est en campagne.
D'accord.
Mais heureusement que la vie politique française ne se résume pas à pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. Il y a d'autres sujets quand même dans le monde. Donc, je vous ai cité deux critères, sincérité, apaisement. Le troisième critère, c'est de faire consensus au sein du Front Populaire. Et à ce titre-là, vous voyez bien que quand plusieurs de mes collègues disent « on veut surtout pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon » et que d'un autre côté, Jean-Luc Mélenchon dit « je ne m'imposerai pas », finalement, tout ça converge. La fin de cette histoire, elle est écrite d'avance et c'est pour ça qu'il en a tiré lui-même
moi,
la conclusion.
Pas sûr
et
qu'elle
le quatrième
soit
critère, c'est d'être compétent et d'avoir l'expérience pour ce poste. Au sein du Nouveau Front Populaire, il y a beaucoup de personnes qui ont été membres de gouvernement, qui dirigent de grandes collectivités territoriales, beaucoup d'écolos d'ailleurs.
Vous avez dit le mot
et donc,
consensus.
On trouvera.
Consensus.
Ouais.
Je voudrais revenir simplement sur un échange que j'avais eu avec Manuel Bompard lorsqu'il a été nommé coordinateur, ça veut dire chef, hein, mais c'est coordinateur de la France Insoumise. Ça avait été vraiment une polémique au sein même du groupe parce que certains s'étaient dit mais d'où ça sort? Il n'y a pas eu de vote, il n'y a rien eu et soudain on a annoncé que c'était donc Manuel Bompard le nouveau chef. Et je lui avais demandé ici même comment, par qui, sur quelle base, il m'avait répondu par consensus. Mmh. Ce fameux mot de consensus. Et il avait ajouté, le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. Par consensus, c'était donc le choix de Jean-Luc Mélenchon qui était sorti du chapeau.
Ouais, mais alors là, on n'est pas à la France Insoumise, on est au Nouveau Front Populaire. Évidemment, si on vote, c'est un rapport de force. Ça va jouer à deux voix contre toi, nous contre trois, et nous ce qu'on veut, c'est trouver la
mais
meilleure solution.
Avec,
mais vous savez,
Fort,
dans les
lui
non, mais tous les
c'est la seule solution, c'est je trouve ça fou. En fait, je vais vous dire
allez-y.
Juste une chose, Marine Tondelier, ce que je trouve assez étonnant. Je vous reçois les uns après les autres, les chefs de parti. On a l'impression quand même que sur un point aussi important que l'incarnation, et on le voit bien dans cette semaine. Je veux dire, on a Jordan Bardella, on a Gabriel Attal, et on a un coup Manuel Bompard, un coup Olivier Faure, un coup on ne sait pas encore. Sur un point aussi important que la question du premier ministre. vous êtes sur du pari. C'est-à-dire, vous vous dites, il y en a un qui dit, non, non, mais on va le faire au vote, ne vous inquiétez pas. Il y en a une qui dit, bah, ça va être par le consensus. En fait,
non, mais vous savez ce qui se passe? C'est que chaque chef de parti.
Sur un truc aussi important.
Non, mais chaque chef de parti va pousser, évidemment, la solution dont il estime que ça peut mener à quelqu'un de son camp.
Mais vous imaginez, vous allez faire ça le soir du 7.
Mais vous ne me laissez pas répondre, madame Apolline de Malherbe. Vous ne me laissez pas répondre. Le Nouveau Front Populaire n'en déplaise à toutes celles et ceux à qui ça ne fait pas plaisir. C'est une équipe. C'est ça la force du Nouveau Front Populaire, de Philippe Poutou à François Hollande. Tout le monde pensait que c'était impossible, on l'a fait. C'est une équipe inédite, parce que à circonstances exceptionnelles, solution exceptionnelle. Et donc, on ne va pas faire comme d'habitude. Et donc, moi, je vous le dis, peut-être parce que je suis la seule femme dans cette affaire, peut-être que parce que je suis la chef des écologistes et qu'on fonctionne comme ça chez nous, je ne m'enfermerai pas dans des débats de polémique, je ne m'enfermerai pas dans des débats de personne, parce que ce n'est pas ça qui compte. On a peut-être Jordan Bardella,
mais je constate quand même
premier
que
ministre de la France.
Mais chacun
c'est normal, on est des partis différents, c'est quand même la démocratie.
Mais ça veut dire qu'à la fin,
et heureusement,
pas
vous savez, moi, je suis écologiste. Je suis pour la biodiversité. Tout le monde a le droit d'exister avec son histoire, ses méthodes, c'est ce qui fait notre force. On va pas s'annuler les uns les autres, on va pas se fondre dans un même moule, on doit chacun rester qui nous sommes.
Hein. C'est hyper sympa, c'est hyper sympa, c'est franchement, ça fait
rêver. Mais ça va changer.
Et mais est-ce que
écoutez,
c'est
efficace? Est-ce que lundi matin, le 9 juin, vous pensiez, est-ce que le 9 juin, vous pensiez qu'on arriverait à faire ça? Le lundi soir d'annoncer cette union, le mercredi soir un programme commun, le jeudi soir un accord électoral. On a surpris tous les gens chaque jour et on va continuer à vous surprendre tous les jours. Juste les questions se posent.
Y compris sur le nucléaire, au-delà de la question de l'incarnation, il y a quand même un point qui a toujours été central.
Qui sont très pour tout vous dire, je m'y attendais.
Qui a toujours été. Non, mais parce que c'est une question très centrale pour vous, c'est le nucléaire. Et là aussi, un peu comme pour la question du Premier ministre, vous avez remis à après. C'est-à-dire que ça n'est pas présent. La décision ferme sur le nucléaire n'est pas dans ce fameux programme qui pourtant est très détaillé.
C'est un contrat de législature pour 2 ans. Alors, si vous savez ouvrir un EPR en 2 ans, vous me prévenez. Si vous savez fermer une centrale nucléaire en 2 ans, vous me prévenez aussi.
Donc, c'est la raison. C'est juste que c'est pas l'urgence.
Par contre, nous allons mettre 10 milliards d'euros par an sur les énergies renouvelables. Vous savez qu'on a testé les propositions de notre programme et que c'est l'une des propositions qui a le plus d'approbation de nos électeurs, les énergies renouvelables, parce qu'on a en France un retard coupable sur le sujet. On s'était engagé dans les années 90 à faire 23% de renouvelables en 2022. C'était l'objectif le plus faible d'Europe. On était nuls sur le sujet. Et en plus, on est les seuls à pas avoir respecté notre objectif. Nous sommes à 19. Nous voulons être à beaucoup plus que ça. Enfin, en Allemagne, ils vont être à 80% en 2030. Nous, on sera peut-être à 30 si tout va bien. C'est la honte. Et donc, par ailleurs, toutes celles et ceux qui vous disent que le nucléaire va résoudre la crise énergétique et la crise climatique, c'est pas vrai. Les EPR que M. Macron veut construire, ils ouvriront pas avant 2040-2045. Et donc, quand en plus vous êtes avec le Rassemblement National, qui mise tout sur le nucléaire, mais qui va en plus arrêter de construire du renouvelable, eux, c'est les candidats du blackout. Ils mettront la France dans le noir, donc je prends pas de leçons de politique énergétique de ce genre-là.
Merci Marine Tondelier. Un dernier mot, parce que hier soir, c'était Manuel Bompard, donc, qui incarnait le Nouveau Front Populaire. J'ai regardé son public derrière lui, donc, qui est le public des gens qui l'avaient amené avec lui. J'ai cru distinguer uniquement des élus LFI.
Alors, pour tout vous dire, comme on est en transparence ici, il nous avait proposé de donner des noms écologistes pour être dans le public aussi derrière lui. On a démarché un peu en urgence, parce qu'on fait tout en urgence depuis 15 jours, il faut le savoir, vous vous en doutez.
Et vous n'avez pas trouvé d'écolo.
Et on n'a pas trouvé, parce que les gens sont sur leur circonscription, en réunion publique, et tout le monde était déployé sur le terrain, donc c'est pas une fâcherie.
La proposition a été faite d'avoir, mais il n'y avait pas non plus de socialistes.
Et on discute de tout ça ensemble, très sereinement. Je vais vous dire d'ailleurs toutes celles et ceux qui pensaient, toutes celles et ceux qui pensaient que Manuel Bompard serait un débattant clivant, qui serait pas souriant, qui serait pas avenant, voilà, ont été, je pense, agréablement surpris, ont vu qu'ils faisaient preuve quand même de préjugés, donc je suis extrêmement fière qu'ils nous aient représentés hier, et ce sera pareil pour Olivier Faure, jeudi.
Merci Marine Tondelier d'être venue défendre donc votre Nouveau Front Populaire ce matin, vous qui êtes secrétaire nationale des Écolos. Il est 8h52.